Bonjour chers auditeurs, au micro Catherine Mann pour l'émission Chemin de foi, qui vient vous inviter à voyager à la suite de quelques grands témoins de la spiritualité chrétienne. Et à tout seigneur, tout honneur, j'ai voulu vous parler d'abord de celui qui eut un chemin tout à fait extraordinaire, puisqu'il fut choisi par Jésus-Christ ressuscité pour annoncer la foi en monde païen, c'est-à-dire Paul de Tarse, Saint Paul. Nous avons déjà parlé de ce qu'on suppose de l'enfance et de l'éducation de Saint Paul, et je vous redis quand même les difficultés que nous avons, parce que il y a très peu de textes bibliques qui nous parlent réellement de Saint Paul, et que beaucoup de suppositions sont le fait de chercheurs en histoire qui émettent des hypothèses en fonction de ce que la science historique peut nous apporter. Et vous savez bien que l'histoire n'est pas une science exacte et que beaucoup de choses nous sont encore inconnues, entre autres l'exacte chronologie. On a toujours beaucoup de problèmes. Je vais reprendre quelques aspects de la vie de Paul qui ont été hypothétiquement proposés par des historiens, par exemple Marie-Françoise Basselès, qui nous parle de l'éducation de Paul en milieu grec à l'université de Tarse, et qui dit ceci: il a forcément été éduqué comme sportif, autant que comme intellectuel, parce que c'était le principe de l'éducation grecque, on développait autant le corps que l'esprit. Elle dit littéralement: il appartient à une génération de juifs pour qui la fréquentation du stade va de soi, surtout à Tarse. Tarse, qui est une ville universitaire au sens américain actuel, si on devait faire une comparaison. Alors, évidemment, sa propre vie prouve qu'il avait une endurance physique assez extraordinaire, parce qu'il a eu une vie de mission qui s'est faite à travers des voyages. Alors, qui ne sont pas des voyages organisés en autocar, hein, qui sont des voyages à pied ou en caravane ou en bateau. Mais quand il a fait du bateau, il a fait des naufrages. Entre autres, justement, il dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens qu'à un naufrage, il a été obligé de nager pendant un jour et une nuit avant d'être recueilli par un bateau. Pour arriver à nager un jour et une nuit sans se noyer, il faut effectivement une résistance physique. Donc je veux bien admettre qu'il ait eu une éducation sportive, mais quand même, le judaïsme, il faut bien le savoir, surtout à cette époque-là, avait horreur du gymnase. Hein, parce que le mot grec gymnase vient d'un mot gymnos qui veut dire nu. La nudité, pour un hébreu, c'est impudique et intolérable. Alors, j'ai du mal à imaginer. Alors, c'est là que nous devons voir que, effectivement, les Juifs de la diaspora sont quand même différents dans leur foi de ceux de Jérusalem. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit passage du premier livre des Maccabées. Vous savez, c'est cette période où les Grecs avaient pris le pouvoir en Israël sous Antiochus Épiphane, donc entre 175 et 164 avant notre ère. Et je vous lis ce petit passage. Donc, il s'agit d'un moment où des Juifs font alliance avec l'envahisseur grec parce qu'ils se disent que la vie serait trop difficile sans ça. Et la Bible dit: ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase. Selon les lois des nations, ils firent disparaître les marques de leur circoncision, je ne sais pas comment on fait, mais, et ainsi, reniant l'alliance sainte, ils s'associèrent aux nations. Donc on voit dans le livre des Maccabées que faire de la gymnastique, c'est vraiment renier l'alliance avec Dieu. Donc déjà là, comment voir l'éducation de Paul en sportif? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il devait avoir une résistance physique, une formation sportive, je ne suis pas sûr. Je vous laisse juger. En tout cas, le fait qu'il voyage beaucoup, ne fût-ce que de Tarse à Jérusalem, donc avec les caravanes, etc., et tout son milieu professionnel. Alors, est-ce qu'il a travaillé déjà dès sa jeunesse? En tout cas, le milieu des fabricants de tissus, de toiles, c'était tout un réseau commercial autour de la Méditerranée. On pense qu'il connaissait ce réseau, puisqu'il l'a utilisé après. Il a dû voyager. C'était quand même pas une mauviette. Physiquement, il devait pouvoir assurer tout ça. Pourtant, il dit de lui-même, quelque part, qu'il est un avorton. Moi, l'avorton. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas faible, en tout cas. Peut-être petit, puisqu'il a pris un surnom, Paulus, qui veut dire petit, mais pas faible. Alors, autre souci qui fait beaucoup élucubrer les historiens, il n'est pas marié. Comment ça se fait? À 18 ans, un juif qui suit un parcours traditionnel est obligatoirement marié. Donc, pourquoi? On a tout dit. Vous savez, dans la lettre 2e aux Corinthiens, il dit qu'il a eu une écharde dans la chair. Je vous lis le petit passage, hein, 2 Corinthiens, verset 7. « Pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Voilà encore qui nous complique. Était-il fort, faible? Et quelle était cette écharde? On a tout supposé. La maladie, l'infirmité, moi ça j'ai du mal à y croire. On a été dire homosexualité, puisqu'il n'était pas marié. Alors, on a tout supposé, je continue les suppositions, en allant plutôt voir une explication. Déjà dans la lettre aux Galates, saint Paul lui-même dit « J'ai été mis à part dès le sein de ma mère ». Et cette phrase-là, vous savez, c'est pas anodin, parce que c'est la formule qui est caractéristique des vocations des prophètes de l'Ancien Testament. Entre autres, Jérémie, la vocation de Jérémie, chapitre 1 de Jérémie, verset 5, « Avant de te former dans le ventre, je t'ai connu. Avant que tu sortes du sein de ta mère, je t'ai consacré, je t'ai constitué prophète pour les nations. » Et c'est pareil pour saint Paul, il est constitué à part dès le sein de sa mère, pour aller prêcher aux nations. Donc, c'est difficile de ne pas voir un parallélisme que saint Paul lui-même fait entre sa vie et celle de Jérémie. Et je vous rappelle que le prophète Jérémie, selon le chapitre 16 du livre de Jérémie, Dieu lui a demandé de rester célibataire et sans enfant. Donc, il y a comme une lignée spirituelle de prophètes célibataires et sans enfant. Et peut-être, et ça c'est aussi une supposition de Marie-Françoise Basselès, l'historienne, qui dit, peut-être a-t-il en fait été consacré par le Naziréat. On n'en a pas de trace au début de sa vie, mais à la fin de son parcours, on voit qu'il, pour éviter les ennuis, et Dieu sait s'il en avait, avec les Juifs de Jérusalem, il finit par accepter d'aller avec un autre groupe au temple de Jérusalem. Donc ça se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 21, les versets 23-24. Il accepte donc d'aller, je vous lis ces versets, « Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Prends-les avec toi. » Donc ces hommes disent ça à saint Paul. Accomplis la purification en même temps qu'eux, charge-toi de leurs dépenses. Ils pourront ainsi se faire raser la tête. Et tout le monde comprendra que les bruits qui courent à ton sujet ne signifient rien, mais que tu te conformes toi aussi à l'observance de la loi. Donc voilà, et effectivement, Paul part au temple et se fait également donc raser la tête. La fin d'un vœu. On allait présenter des offrandes au temple et les nazirs, les consacrés à Dieu, devaient garder les cheveux longs. On n'avait pas le droit de se couper les cheveux. Mais à la fin du vœu, on allait se faire raser la tête au temple. Alors, on ne parle pas de début de nazirage chez saint Paul, mais visiblement, on lui demande de participer à une fin de vœux publique au temple et il accepte. Donc, c'est presque la fin de son nazir, de sa consécration. Moi, j'irais plutôt dans cette piste-là pour comprendre pourquoi il est célibataire, parce que les nazirs ne pouvaient pas se marier selon leurs vœux, ne pouvaient pas se couper les cheveux et ne pouvaient pas boire de vin. Et, ni manger de raisin, ça, c'est des choses un peu étonnantes, mais voilà. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on pense aussi pour le Christ. Était-il nazir? Probablement. Donc, suppositions, mais aussi des suppositions pour sa propre position dans le judaïsme. Parce que il est éduqué en diaspora grecque, donc peut-être une université de Tarse, ce qui suppose effectivement une ouverture culturelle à toutes les nations, un point de vue un peu cosmopolite, etc. Et quand il fait ses études de pharisien, ce qui est déjà quand même très juif, de stricte observance, on le lui donne comme maître Gamaliel, qui est un de ceux qui est les plus tolérants. Alors, on se dit que ça colle bien avec l'acceptation d'un juif de diaspora. Et pourtant, vous connaissez bien le problème. L'affaire Étienne, qui lance toute l'histoire dans les Actes des Apôtres, on nous le montre, et même saint Paul se décrit lui-même dans ses lettres, comme un fanatique. Comment peut-il être à la fois fanatique et juif helléniste de la diaspora? Parce qu'Étienne lui-même était un judéo-chrétien helléniste. Comment situer Paul dans le judaïsme de l'époque? Comment peut-il se dire à la fois pharisien de stricte observance, plus juif que les juifs, et combattant, et en même temps disciple de Gamaliel qui est très tolérant? Donc tout ça, faut avouer, on ne sait pas grand-chose. On peut quand même en déduire qu'il y avait dans les mouvements de juifs de diaspora hellénistes, au moins deux factions, deux points de vue. Et que peut-être Étienne faisait partie d'un point de vue un peu extrémiste. Alors, pour ça, on aurait d'un côté saint Paul qui est juif helléniste, mais quand même très attaché au temple. Alors qu'Étienne, si on en croit le discours qu'il fait au moment, juste avant sa mort, je vous lis ce tout petit passage, donc dans le chapitre 7 des Actes, il fait un grand discours de justification de sa vie et de sa compréhension de la loi juive. Et à la fin, il termine avec ces mots à propos de l'histoire de Salomon qui bâtit une maison, donc le temple. « Et pourtant, dit Étienne, le Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône, la terre un escabeau sous mes pieds. Quelle maison allez-vous me bâtir, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a créé toutes ces choses ? » Voilà, donc ça c'est un petit extrait du prophète Isaïe. Qui tente à faire dire que le temple n'a pas tellement d'importance. Donc ça, c'était compris par les Juifs de stricte observance comme une offense terrible, même une attaque contre le temple. Et Paul, à ce moment-là, prend le parti, finalement, de ceux qui défendent le temple. Et si on voit toute la vie de Paul jusqu'au bout, puisque je viens de vous lire qu'il est allé présenter son fin de vœu au temple, il n'a jamais rejeté le temple de Jérusalem, alors que certains chrétiens extrémistes, dont Étienne, oui, voulaient se passer de... Donc la religion de base, de départ du christianisme était déjà compliquée. C'était compliqué entre les juifs, c'était compliqué dans les réactions entre Paul et Étienne. Et on peut se demander... En admettant que, puisque Paul se décrit comme quelqu'un de très zélé contre les chrétiens, il faut quand même se dire qu'il devait avoir quelque chose à leur reprocher, pas seulement le fait qu'ils soient contre le temple. Donc on se pose aussi la question, mais que savait exactement Paul de Jésus? Qu'est-ce qui circulait dans Jérusalem comme bruit? Il a peut-être croisé Jésus, forcément. Il en a entendu parler. Qu'est-ce qu'on en disait? Sûrement que c'était un maître qui accomplissait des miracles, puisqu'il a fait sa réputation aussi comme ça, Jésus. Donc, ça a dû arriver aux oreilles de Paul. Qu'il a été crucifié, il a été forcément au courant. Qu'on a répandu le bruit qu'il était ressuscité, il était au courant. Moi, je crois que ce qui a dû peut-être le prendre à rebrousse-poil le plus, c'est que Jésus a quand même, de son vivant, osé critiquer la loi. Rappelez-vous combien de fois Jésus dit « on vous a enseigné que » et « moi, je vous dis que ». Donc ça, je ne suis pas sûre que ça passe facilement chez un juif pharisien, même hellénisant et ouvert à la culture cosmopolite. Ça peut justifier un peu son fanatisme et le fait qu'il ait applaudi quand on martyrisait les premiers chrétiens. Donc toutes ces suppositions nous font arriver dans la vie de Paul au moment qu'on appelle la conversion sur le chemin de Damas. Alors là, les historiens souvent interviennent en disant « mais il n'y a pas de conversion, il n'a pas changé de religion ». Ah, ça, on joue sur les mots. On devrait dire la vocation. Ben oui, enfin, je ne suis pas opposé. Il n'y a pas vraiment changement de religion, il y a changement de point de vue. C'est-à-dire que le Christ, dont il se méfiait parce qu'il condamnait la loi, qui disait qu'il était le Messie, n'y croyait pas, au moment où il est bouleversé, retourné par une vision du Christ ressuscité, il reconnaît le Christ comme Messie d'Israël. Donc, il n'y a pas conversion, il y a prise de conscience de son erreur. Évidemment, on peut appeler ça une conversion, mais alors pas à l'intérieur du judaïsme. C'est intéressant de voir comment il évoque ce moment dans ses lettres. Dans la première aux Corinthiens, il dit simplement qu'il a vu Jésus, notre Seigneur. Il m'est apparu. Dans la deuxième aux Corinthiens, il identifie le Seigneur en disant « c'est l'Esprit ». Et du coup, ça lui fait dire, dans l'Épître aux Galates, que l'Esprit a révélé en moi son Fils, le Fils de Dieu. Par l'Esprit, Dieu a révélé en moi son Fils. Donc on ne sait pas si c'est une vision extérieure ou finalement une imprégnation intérieure. Dans la lettre aux Philippiens, il dit « j'ai été saisi ». Moi-même, par le Christ Jésus. Il a été empoigné, alors extérieurement, intérieurement, probablement les deux. Alors, au niveau historique, on n'a pas énormément de moyens de savoir, à part les actes des apôtres, l'historien étant Saint-Luc, un historien qui est de cette époque-là, donc qui n'a pas des réflexes scientifiques comme aujourd'hui. Et trois fois dans les actes des apôtres, le récit de la conversion de Damas apparaît, et ce ne sont pas les mêmes récits. Alors, au chapitre 9, une lumière qui venait du ciel resplendit soudain autour de lui. Il tomba à terre, entendit une voix qui dit « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Les compagnons entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Voilà, ça c'est chapitre 9. Chapitre 22, toujours les actes des apôtres. Tout à coup, vers midi, une vive lumière qui venait du ciel resplendit autour de moi. C'est saint Paul qui raconte. Mes compagnons virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix. C'est-à-dire le contraire de ce qui est dit dans la première. Déjà, comment savoir? Troisième version, chapitre 26 des actes. Vers le milieu du jour, sur la route, je vis une lumière qui venait du ciel, plus brillante que celle du soleil, et qui nous enveloppait de son éclat, moi et mes compagnons. Là, pour le coup, les compagnons sont dedans. Alors que nous étions tombés à terre, etc. Donc, la troisième version, les compagnons sont pris dans le même mouvement que lui. Bon, il faut rester extrêmement patient vis-à-vis de l'histoire de saint Paul. On ne peut pas exactement savoir ce qui s'est passé, à part que il a été saisi et retourné. Je dirais plutôt que converti, vous me direz que c'est peut-être à peu près la même chose, mais retourné intérieurement, complètement, par une compréhension de qui était Dieu, l'Esprit et le Christ, qu'il arrête de persécuter, puisqu'il passe du côté des persécutés. Lui-même va perdre la vue pendant 3 jours, et il va être ensuite baptisé à Damas. Alors, saint Paul, une fois qu'il est baptisé, va, bien qu'il y a un trou de 2 ans dont on ne sait pas ce qui va se passer, certains disent qu'il s'est retiré dans un monastère pour une... Toutes les suppositions existent, il est parti faire une retraite dans le désert, c'est possible. Enfin, il y a un trou apparemment chronologique de 2 ans, après quoi il se rapproche des apôtres, ceux qui ont suivi le Christ de son vivant, les apôtres, je dirais, normaux par rapport à lui, qui est quand même une pièce rapportée extraordinaire. Et, bon, vous le savez, ça, il n'a pas forcément été accueilli les bras ouverts. Tout le monde se souvenait qu'il avait persécuté les chrétiens et on n'avait pas vraiment confiance en lui. C'est difficile de croire que quelqu'un a changé à ce point-là, mais petit à petit, il arrive quand même à s'imposer par la persévérance, etc. Et puis aussi parce qu'il de bonne volonté, et surtout parce qu'il va expliquer qu'il n'a pas la même vocation qu'eux. Il est apôtre, mais différemment. Il veut pas marcher sur leur plate-bande. Il veut pas ennuyer le travail des apôtres, qui est une évangélisation en milieu juif, parce qu'il faut bien se souvenir de ça, l'évangélisation, elle commence par les cercles juifs de Jérusalem, puis les prosélytes ou les craignants Dieu qui étaient autour du judaïsme en Judée, justement. Et saint Paul, très vite, va dire « Moi, je ne suis pas appelé à ça ». Je vous lis un petit passage à la fin des Actes des Apôtres, où saint Paul raconte, chapitre 22, verset 17, « De retour à Jérusalem, alors que j'étais en prière dans le temple, il m'arriva un jour de tomber en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, « Vite, quitte Jérusalem sans tarder, car ils n'accueilleront pas le témoignage que tu me rendras. » Je répondis, « Mais Seigneur, ils savent bien que c'est moi qui allais dans les synagogues pour faire mettre en prison et battre de verges ceux qui croient en toi. Et lorsque le sang d'Étienne, ton témoin, a été répandu, moi aussi j'étais là, j'approuvais ces meurtriers, je gardais leurs vêtements. Mais Jésus me dit, « Va, c'est au loin, vers les nations païennes, que je vais, moi, t'envoyer. » Voilà. Donc, il attribue à une vision qui n'est pas celle de Damas, qui est à Jérusalem, une vision de Jésus qui précise sa vocation. Et si on en croit l'Épître aux Galates, ça a été facilement accepté par les autres apôtres. On a partagé les territoires en bonne entente, en disant, bon, voilà, toi, tu vas, puisque tu es doué pour aller vers les nations, les païens, ce qu'on appelle les non-juifs, en fait. Voilà, nous gardons le travail d'évangélisation en Judée, et toi, va au loin. Mais ça ne va pas arranger forcément les choses, parce qu'il y aura toujours une différence entre aller évangéliser les païens et évangéliser en milieu juif. C'est pas du tout le même travail. Et ça mettra quand même un peu de problème entre les apôtres. Alors je vous dis au revoir, on continuera cette magnifique histoire la prochaine fois.